êtes bien à l'écoute de Radio France Internationale, 6h30 à Paris et à Khartoum, 4h30 en temps universel. Tout de suite, c'est le journal avec vous, Alban Le Prince. Bonjour.
Bonjour Jeanne, bonjour à tous.
Et à la une, le retrait des cadavres dans la province de Khartoum, enjeu de santé publique.
Dans l'ouest de la capitale notamment, récemment reprise par l'armée régulière au FSR, les forces de soutien rapide qui interdisaient aux habitants d'enterrer leurs morts. Reportage dans un instant. L'IGAD, le bloc régional de la Corne de l'Afrique qui surveille le processus de paix au Soudan du Sud, appelle à la libération de Riek Machar, le vice-président placé en résidence surveillé par le président Salva Kiir le mois dernier. Scepticisme ou réel succès, 5 jours après l'organisation du 5e sommet des chefs d'État de la Commission de l'océan Indien à Madagascar, quel bilan tirer de cet événement destiné à débattre des grands enjeux de la souveraineté alimentaire? Élément de réponse dans ce journal. La Côte d'Ivoire s'apprête à récupérer le tambour parleur confisqué par la France en 1916. Le Sénat français a adopté hier un texte pour le restituer définitivement à Abidjan. Et puis dans 10 minutes, le journal des sports avec comme tous les jours le portrait de l'un des nommés au prix Marc Vivien Fouet, le trophée du meilleur joueur africain de Ligue 1, mais aussi le coup d'envoi ce soir des demi-finales allées de la Ligue européenne des champions. C'est une première depuis la défaite infligée aux paramilitaires des FSR en début d'année à Khartoum, au Soudan. Le général Al-Bourhan en visite officielle en Égypte. Hier, il a été reçu au Caire par le président Abdel Fattah al-Sissi, qui lui a proposé de l'aide pour reconstruire les régions sous contrôle de l'armée régulière. La plus grande partie de la capitale a été reprise fin mars, mais les FSR, les forces de soutien rapide, gardent quelques poches de résistance dans l'ouest et le sud, notamment où les combats continuent. La situation humanitaire, elle, continue de s'aggraver. La question des cadavres laissés en pleine rue par les paramilitaires se pose. Leur retrait devient urgent. C'est même un enjeu de santé publique. Le reportage pour RFI de Gaëlle Alex.
Le quartier d'Ombada, dans la banlieue ouest de Khartoum, est scindé en deux par la ligne de front. La partie est a récemment été récupérée par l'armée. L'odeur y est pestilentielle. Chabou Kaï, un habitant, explique pourquoi.
Les FSR ne nous autorisaient pas à enterrer nos morts. Ils devaient rester dans la rue. La nuit, parfois, on récupérait les corps et on les enterrait dans nos maisons. Il y a des maladies, mais on ne sait pas si c'est à cause des morts ou de la faim.
Comme ses voisins, Kafi Bourgane a enterré des proches dans sa maison. Il n'a pas de cour, les dépouilles reposent dans le salon.
Si les FSR nous prenaient en train d'enterrer nos morts, ils nous battaient ou nous tuaient. On n'avait pas le droit de les honorer. Les corps pourrissaient. Personne ne peut imaginer l'odeur de la mort. Ça me rend triste et mon Dieu le sait.
Ce sont les volontaires du Croissant Rouge en collaboration avec l'armée qui collectent les dépouilles dans la capitale. La situation est urgente, selon Osama Mustafa Souleyman, son directeur.
La saison des pluies démarre dans 2 mois. Or, les déplacés rentrent. À Khartoum, il n'y a pas d'eau courante. Les gens vont la chercher dans le Nil ou dans des puits. Si on ne récupère pas très vite les corps, il y aura des épidémies.
Des milliers de dépouilles ont déjà été récupérées. 3 cimetières ont été créés dans la banlieue de Khartoum. Gaëlle Lalex, de retour de Khartoum, Nairobi, RFI.
Et les combats se poursuivent près d'El Fasher, dernier grand centre urbain du Darfour Nord, encore sous contrôle de l'armée régulière, mais assiégé par les forces de soutien rapide. Bombardé depuis 3 jours par les FSR, plus de 20 personnes ont été tuées, 40 blessées dans le camp de déplacés d'Abou Chouk, selon les secours. Pour les Nations Unies, ces 2 dernières semaines, les opérations menées par les paramilitaires au Darfour Nord ont fait au moins 481 morts parmi les civils. Ce conflit, cela fait 2 ans qu'il a débuté. Il a aussi fait 13 millions de déplacés, dont plus de 3 millions de réfugiés qui ont fui le pays. Nous ne pouvons pas les abandonner, a déclaré hier le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, qui alerte également sur l'impact de la guerre sur les pays voisins du Soudan.
Les conséquences de ce conflit s'étendent désormais bien au-delà des frontières du Soudan, et en particulier à tous ces pays qui accueillent au total plus de 3 millions de réfugiés soudanais, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Ouganda et la République centrafricaine. Les pays les plus touchés sont le Tchad et le Soudan du Sud, qui font eux-mêmes face à de nombreux défis auxquels s'ajoute l'afflux de réfugiés. Pour autant, ils ont gardé leurs frontières ouvertes, et ce, en dépit d'un financement humanitaire largement insuffisant. Le dernier appel régional à financement pour aider ces réfugiés n'a été financé qu'à hauteur de 11%, alors que les besoins sont énormes. Les réfugiés arrivent dépourvus de tout et ne reçoivent qu'une fraction de ce qui leur est nécessaire, cela en raison de la baisse de l'aide. Les lois et les politiques tchadiennes en matière de réfugiés sont parmi les plus progressistes au monde, mais ce qui manque à ces pays, ce sont des ressources pour pouvoir continuer à accueillir ces réfugiés. Nous ne pouvons pas les laisser seuls.
We cannot leave them alone.
Philippe Grandi, commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Au Soudan du Sud, l'IGAD appelle à la libération de Riek Machar, le vice-président résident surveillé, et des autres membres de l'opposition placés en détention le mois dernier par le président Salva Kiir. Le bloc régional de la Corne de l'Afrique, qui supervise la mise en œuvre de l'accord de paix signé en 2018, a publié hier son rapport trimestriel. Il dresse un bilan alarmant des trois premiers mois de l'année et rappelle que l'accord reste la pierre angulaire de la future stabilité du pays. Les précisions de Florence Mietto.
Des scènes jamais vues depuis la signature de l'accord il y a 6 ans. C'est ainsi que la commission qui supervise le processus de paix décrit les événements des dernières semaines. Si des violations du cessez-le-feu sont imputées aux deux parties, c'est en revanche le camp de Salva Kiir qui est pointé du doigt concernant les violations dites politiques. Détention de Riek Machar, invitation de l'armée ougandaise sans consultation des autres signataires ou encore remaniement ministériel jugé unilatéraux. Sur le terrain, les combats continuent entre forces de l'opposition et forces gouvernementales, mais les observateurs de l'accord de paix veulent croire que tout n'est pas perdu. Bien que la confiance entre les parties ait été sérieusement ébranlée, écrivent-ils, il reste encore une marge de manœuvre pour un réengagement et un dialogue. Ils demandent donc la libération immédiate de Riek Machar et de tous les autres officiels d'opposition détenus, à moins que des preuves crédibles ne justifient des poursuites judiciaires. Enfin, ils appellent à la cessation immédiate des hostilités sur tous les fronts et note avec inquiétude l'arrêt de la préparation des élections censées se tenir dans moins de 20 mois. Florence Mietto, Djouba, RFI.
5 jours après l'organisation du 5e sommet des chefs d'État de la Commission de l'Océan Indien, quel bilan en tirer ? L'événement organisé par et à Madagascar a permis de débattre des enjeux de la souveraineté alimentaire régionale en présence des chefs d'État des 5 pays membres. Et si certains y voient de belles avancées, Sarah Tetto, d'autres restent encore sceptiques.
Un sommet historique, c'est en ces termes que la ministre des Affaires étrangères malgache, Rafa Rafavitaf Kerasat, a qualifié le 5e sommet de la Commission de l'Océan Indien lors de son bilan face à la presse.
Nous avons su replacer au cœur des préoccupations des États membres de la COI la question de la sécurité alimentaire et de la souveraineté alimentaire dans la région. Madagascar se positionne comme un pays qui veut apporter des solutions.
Une fois encore, la grande île a affiché sa ferme volonté de redevenir le grenier de l'océan Indien. Dans cette optique, les 5 États se sont donc engagés à investir massivement dans la transformation des systèmes agricoles et dans la nutrition. Pas suffisant, estime Mathieu Joyeux, responsable de la nutrition à l'UNICEF Madagascar.
Clairement, au vu de l'urgence nutritionnelle dans le Grand Sud actuellement, on ne peut pas en rester là au stade des résolutions. Et donc, il nous faut vraiment maintenant des actions très concrètes pour répondre justement aux enjeux d'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans Madagascar. Et ça doit aller au-delà des ambitions certes louables d'augmentation de la production rizicole, par exemple. Et donc, pas uniquement tout miser sur la production alimentaire pour de l'export régional ou même international. Pour rappel, on a au sein de la COI, une structure en charge de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Elle a été créée il y a 10 ans. Il faut maintenant qu'on passe vraiment à l'action avec l'appui de cette structure.
Dans le grand sud de l'île, les voyants sont effectivement dans le rouge. Le nombre d'enfants atteints de la malnutrition aiguë sévère a quasiment doublé ce mois-ci par rapport à avril 2024. Sarah Tetto, Antananarivo, RFI.
Il fait 3,50 m, 430 kg, le tambour parleur confisqué par la France à la Côte d'Ivoire en 1916 est en passe d'être restitué. Le Sénat français a adopté une proposition de loi en ce sens à l'unanimité hier en première lecture pour respecter la promesse faite en 2021 par le président français Emmanuel Macron. Jusqu'ici, la France ne pouvait officiellement que lui prêter le tambour. Là, il pourrait bientôt être rendu définitivement à Abidjan. Le rapporteur du texte est sénateur Max Brisson.
Cette initiative du Sénat, parce que c'est nous qui avons découvert qu'alors que se préparait le retour du tambour dans le cadre d'un magnifique projet de coopération pour créer à Abidjan un magnifique musée des civilisations ivoiriennes, rien n'a été fait à Paris pour assurer le transfert juridique du tambour. Donc nous avons pris l'initiative de cette proposition de loi. C'était vraiment absurde qu'il n'y ait aucun support légale pour assurer le transfert du tambour, alors que la France participait pleinement par sa coopération sur le terrain en Côte d'Ivoire à la conception de ce musée rénové des civilisations ivoiriennes et à l'accueil du tambour avec un magnifique projet d'explication, de numérisation à laquelle la France était partie prenante de manière très active avec les conservateurs ivoiriens.
Des propos recueillis par Victorien Villot, mais le texte doit maintenant être adopté à l'Assemblée nationale pour une restitution prévue en principe au mois de juillet. On termine avec un défi: divisé par deux le nombre de personnes qui respirent des taux de particules fines trop élevés. C'est possible d'ici 2040, soit dans 15 ans, selon la Banque mondiale. Dans un rapport publié le mois dernier, elle liste ses recommandations pour les pays à faible revenu, car ils en sont les premières victimes, comme en Afrique subsaharienne. Les explications d'Heidi Soupol.
48% des habitants d'Afrique subsaharienne respirent des particules fines en trop grande quantité. Cela met en danger leur santé. L'une des principales sources de pollution, c'est la combustion, car de nombreux ménages cuisinent en allumant des feux de bois ou de charbon. La Banque mondiale recommande donc aux États de décarboner, c'est-à-dire permettre à tous de cuire ses plats sans rien brûler, en assurant par exemple un accès à l'électricité. Cela passe aussi par une meilleure gestion des ordures afin d'éviter l'incinération sauvage des déchets agricoles. Mais la principale source de particules fines dans la région n'est pas humaine. Elle provient à 68% de la poussière du Sahara. Compliqué de rayer un désert de la carte. Alors pour compenser cette pollution naturelle, la Banque mondiale demande au continent de réduire de 76% ses émissions de particules fines, alors que dans le reste du monde, la réduction moyenne exigée est de 50%.
Heidi Soupol. Il est 4h42 en temps universel.
Afrique Matin sur RFI.
Et merci d'écouter RFI. Au sommaire de ces 20 prochaines minutes, le reportage Afrique nous conduira à Madagascar, qui veut s'imposer comme un acteur majeur de la production d'algues, alors que l'International Swedish Symposium, le rendez-vous mondial des acteurs du secteur, s'ouvre la semaine prochaine au Canada. Nous irons aussi à Dakar, au Sénégal, où le secteur du bâtiment est en crise, bientôt un an après la suspension des chantiers de construction dans le pays annoncé par le gouvernement. Le grand invité Afrique ce matin, c'est Carlos Lopez, ancien secrétaire exécutif de la Commission économique de l'ONU pour l'Afrique. On parlera avec lui du futur président de la Banque africaine de développement, qui doit être élu dans un mois. Mais avant cela, le journal des sports avec vous, Antoine Grenier, bonjour.
Bonjour Alban.
Et on commence, comme de coutume, avec le prix Marc Vivien Fouet, le trophée du meilleur joueur africain de Ligue 1, remis par RFI. Et jusqu'au 5 mai, on vous fait découvrir les 12 nommés. Aujourd'hui, Lamine Camara.
Le Sénégalais de 21 ans, un des plus jeunes nommés. Il était d'ailleurs déjà dans la liste l'année dernière. Nomination qui récompense sa régularité et son importance au sein du milieu de terrain de l'AS Monaco, Ndiaye Samba.
Lamine, c'est un très très bon joueur. Mais je dis, il a encore beaucoup de progression devant lui.
L'éloge teinté de conseils et signé du grand frère, le chanteur Youssou N'Dour. Lamine Camara, c'est une deuxième nomination de suite au prix Marc Vivien Fouet. La rançon du talent est tout sauf une surprise pour Yoro Mangara, consultant de Radio Foot International.
Il fait une excellente saison à Monaco. Il quitte Metz pour Monaco. Il quitte un club relégué pour un club qui joue les premiers rôles dans cette Ligue 1 française. Il fait huitième de finale de Ligue des Champions, ce qui n'est pas rien. C'est lui qui tire les corners, les coups francs. On l'a vu marquer quand même du milieu de terrain parce que il a une vision de jeu et une patte qui lui permet de toucher ses attaquants sur 40, 50 mètres de l'extérieur tout comme de l'intérieur du pied.
Une belle palette et les outils nécessaires pour le haut niveau. Celui qui était surnommé le maçon lors de ses années de formation à Génération Foot pose les fondations d'une carrière qui s'annonce brillante.
Il est encore jeune, on parle d'un joueur de 21 voire 22 ans qui a découvert la Ligue 1 française il y a 2 ans. Il est dans cette progression. Après, il faut qu'il apprenne. C'est pas quelqu'un qui est habitué à jouer 40, 50 matchs, c'est ce que fait Monaco aujourd'hui.
Jamais un Sénégalais n'a remporté le prix Marc Vivien Fouet. Lamine Camara a la lourde charge de réparer l'anomalie.
Ndiaye Samba, rendez-vous le 5 mai pour savoir si Lamine Camara sera sur le podium des finalistes du prix Marc Vivien Fouet, et le 12 mai pour la désignation du lauréat et successeur de Pierre-Emerick Aubameyang.
Et sur le terrain, début des demi-finales aller de la Ligue Européenne des Champions,
avec la première affiche qui a lieu ce mardi entre Arsenal et le PSG à l'Emirates Stadium. Paris bourreau des clubs anglais jusqu'ici après avoir déjà éliminé Liverpool et Aston Villa, mais cette fois la marche est encore plus haute, d'autant qu'Arsenal a été à l'origine en phase de ligue d'une des grosses déceptions parisiennes en C1. Au mois d'octobre, Paris n'avait pas existé face aux Gunners, défaite sans appel, 2-0. Mais pour Vitinha, le milieu de terrain portugais, les choses ont bien changé depuis.
C'est forcément un match différent. Bien sûr qu'on va, essayer de faire un résultat différent, on va tout faire. On va pas changer beaucoup notre manière de jouer. On va être à 1000% pour jouer ce type de match. Peut-être que des choses qui ça va passer dans le match contre Arsenal ici, ça va pas passer demain, on sait pas. Bien sûr qu'on va être tout préparé. On a beaucoup évolué. On va se présenter ici d'une manière différente parce qu'on n'est pas la même équipe qu'on était à octobre.
Arsenal-PSG, première demi-finale allée de la Ligue des Champions.
Et c'est à vivre en direct en intégralité sur RFI à partir de 19h, temps universel. Antoine, un mot de la Basketball Africa League pour finir.
Troisième journée de la très indécise conférence Sahara à Dakar. Après deux matchs, tout le monde est à égalité. Et ce mardi, le Petro de Luanda affronte les locaux de l'AS Séville de Dakar. Ça sera à 19h, temps universel. Juste avant, Monastir, qui a battu le Petro hier, tentera de confirmer face aux Cap-Verdiens de Creole Star.
Merci Antoine Grenier.
RFI, toute l'actualité. Alban Le Prince.
Et on fait un point sur les titres de l'actualité internationale avec tout d'abord l'électricité qui revient progressivement en Espagne et au Portugal. Après cette coupure de courant massive à la mi-journée, près de 90% de l'électricité est rétablie en Espagne continentale. On ne connaît toujours pas les raisons de cette panne géante. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, dénonce une tentative de manipulation. Réaction après l'annonce d'un cessez-le-feu du 8 au 10 mai par Vladimir Poutine, son homologue russe, à l'occasion des célébrations de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Comme lors de la précédente trêve, Volodymyr Zelensky appelait à une cessation des hostilités de 30 jours. Et puis le monde assiste à un génocide en direct à Gaza, c'est ce que déclare la secrétaire générale d'Amnesty International. Dans un rapport, elle souligne que 90% des Gazaouis ont été déplacés depuis le début de la guerre avec Israël. À partir de lundi prochain et pendant 4 jours, la ville de Victoria au Canada accueille l'International Swedish Symposium, le rendez-vous mondial des acteurs de l'algue, chercheurs, industriels, producteurs. Madagascar y participe. C'est d'ailleurs sur la grande île qu'une recherche unique au monde est menée depuis 2 ans pour redonner une nouvelle vie à la culture des algues. Objectif, développer une souche d'algues 100% malgache qui puisse être produite dans les fermes algocoles du pays et remplacer c'est la souche tanzanienne cultivée depuis 10 ans et dont le patrimoine génétique s'est considérablement affaibli au fil des années. La Capaficus, c'est le nom de cette algue, est très appréciée pour son carrageenane, un biopolymère utilisé dans l'agro-industrie, la pharmaceutique ou encore la cosmétique. La correspondante de RFI, Sarah Teto, a pu se rendre au laboratoire de recherche situé à Tuléar, dans le grand sud de Madagascar.
Est-ce qu'il y a déjà des bactéries sur les algues ?
Oui, il y en a déjà.
Où ça ? Je peux voir ?
Dans le Recloserie de Tuléar, Thomas et Borrello inspectent la trentaine d'aquariums dans lesquels se développent des algues aux différences de patrimoine génétique saisissantes. Et c'est le bac numéro 22 qui retient soudain l'attention des deux hommes. L'algue qui s'y développe montre des critères morphologiques intéressants.
Borrello, ces boutures-là, ce sont les bébés des algues qui ont été récoltées à Tiandam en 2023. Elles poussent hyper bien, non ?
Oui, c'est un succès. Elles semblent en bonne santé et elles sont vraiment grosses.
Je trouve qu'elles ont aussi une texture très lisse.
Ces bébés algues, dont parle Thomas Picard, le directeur adjoint d'Ocean Farmers, pionnier de l'algoculture dans l'île, ont déjà 1 an de vie dans leur aquarium.
Aujourd'hui, on constate que cette algue-là, elle présente tous les critères que l'on recherche, c'est-à-dire qu'elle a un très bon taux de croissance, elle est saine, elle a beaucoup de mucus. Elle développe énormément de branches, donc c'est un enfant avec lequel on pense qu'il y a vraiment un potentiel pour pouvoir en faire une variété qui sera intéressante pour la mise en culture avec les fermiers.
L'algue est déjà testée en pleine mer. Les chercheurs ont bon espoir que d'ici fin 2025, ils auront suffisamment de recul pour pouvoir commencer à travailler avec les souches sélectionnées. Et si la science s'intéresse à cet organisme vivant, c'est parce qu'au fil des ans, la reproduction végétative de l'algue, sorte de clonage à l'infini, a entraîné l'épuisement du patrimoine génétique de sa souche, baissant nettement sa productivité.
Donc une des solutions aujourd'hui sur laquelle on a réfléchi, c'est d'aller chercher des souches locales sauvages et également de réintroduire de la diversité génétique au sein de notre population qui va permettre de renforcer la résilience de l'algue de manière générale face aux maladies, face aux conditions de culture, face au changement climatique. Et donc très naturellement, comme dans n'importe quelle population animale ou végétale, plus vous avez de la diversité génétique, plus vous allez avoir la chance d'avoir des meilleurs résultats et de la résilience. Donc on a besoin de reproduire énormément d'individus et de tester beaucoup d'individus avant de trouver la perle rare qui va être l'individu performant. Donc on pense que ça prendra environ encore 2-3 ans.
Un projet scientifique dont les résultats seront partagés à tous les acteurs de la filière pour renforcer la production d'algues à l'échelle nationale. Objectif, peser sur le marché mondial de l'algue et multiplier par 10 la production du végétal d'ici 2030. Sarah Tetto, de retour de Tuléar, RFI.
Prenons à présent la direction du Sénégal où il y a un an, le gouvernement tout juste installé suspendait les chantiers de construction du pays. Objectif, pouvoir mener des audits pour assainir le secteur qui représente plus de 4% du PIB et 200 000 emplois directs. Cela devait durer 2 mois, sauf qu'aujourd'hui, les travaux n'ont toujours pas repris. Des dizaines de milliers de personnes ont perdu leur emploi et la population commence à s'impatienter. Reportage Afrique Économie à Dakar, signé Juliette Dubois.
Chaque matin, au rond-point de Cœur Massar, en banlieue de Dakar, des centaines d'ouvriers attendent, outils à la main, que des camions viennent les chercher pour aller travailler. Mais depuis un an et la suspension des chantiers par les autorités, le travail se fait rare. Ida Faye est maçon.
Tu viens à 5h du matin, tu vas rester là jusqu'à 10h et puis rentrer. Le lendemain, tu reviens encore. Tu avais espoir de gagner quelque chose, mais tu rentres encore bredouille. Ça fait des mois que ça dure.
Beaucoup de ces jeunes ont voté pour le nouveau président Bassirou Diomaye Faye avec l'espoir du changement, mais leurs conditions de vie se sont détériorées. Rane Dieng.
Avant, avec l'ancien régime, on pouvait gagner 10 000 ou 11 000 francs CFA par jour. Mais aujourd'hui, on a du mal à gagner ne serait-ce que 5 000. Ça fait un an qu'ils sont là et ils n'ont rien fait pour le pays. Il faut qu'ils arrêtent d'auditer, de suspendre tout. Il faut qu'ils travaillent.
Insa Koli, ferrailleur et père de famille, est en colère et n'arrive plus à penser à son avenir.
Si tu vois, tu trouves 300 000 francs aujourd'hui. Je prends la pirogue pour rentrer en Espagne. Tu fais l'Espagne 3 mois, tu achètes un terrain ici à Dakar. Mais si tu travailles ici pendant 20 ans, tu ne peux même pas acheter un terrain. Nos États doivent penser cette jeunesse-là. Sinon, nous tous, on va mourir dans la mer.
15 000 emplois ont été perdus dans le secteur formel suite à la suspension des chantiers, selon les syndicats. Certains ouvriers qui avaient des contrats sont au chômage technique. Dans le secteur informel, c'est impossible à chiffrer, mais bien plus élevé selon les représentants de la profession. Oumar Gueye, du syndicat national de la construction et du bâtiment, s'impatiente.
Au début, on disait qu'il y avait des audits à faire. Il y avait une situation du secteur qu'on voulait vraiment avoir une maîtrise. Mais j'avoue que là, on ne comprend plus.
D'autant que l'État sénégalais a accumulé de nombreux impayés auprès des entreprises de construction pour 300 milliards de francs CFA, soit plus de 450 millions d'euros. Oumar Gueye regrette l'absence de mesures d'accompagnement de l'État.
Dans une république normale, même s'il y a des décisions qui doivent être prises, pour moi, l'idéal serait au moins qu'on puisse nous appeler autour d'une table. Si, par exemple, on nous avait payé à l'avance sur la dette intérieure, on pouvait au moins préparer ces situations-là. Mais c'est du jour au lendemain qu'on est confronté à cette situation d'arrêt des travaux. On n'a plus de nouveaux marchés, on n'est pas payé. Les chantiers qui étaient gagnés ne sont pas exécutés. Vous voyez, donc ça fait mal.
Au dernier trimestre 2024, le chiffre d'affaires du secteur de la construction sénégalais a reculé de près de 10% par rapport à la même période en 2023. Sollicité, les autorités n'ont pas donné suite à nos demandes d'interview. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
C'est dans un mois pile, le 29 mai, un nouveau président pour la Banque africaine de développement va être élu à Abidjan par les représentants des 81 pays membres de l'institution, parmi lesquels 54 pays africains. Alors qui pour succéder au Nigérian Akinwumi Adesina pour les 5 prochaines années? 5 candidats sont en lice, une femme, 4 hommes. L'économiste bissao-guinéen Carlos Lopez, ancien secrétaire exécutif de la Commission économique de l'ONU pour l'Afrique, RFI lui a d'abord demander si chaque pays africain votera avec son bloc régional.
Je pense que la dynamique de ce type d'élection est très complexe. D'abord, il faut compter que les deux premiers volets de votation sont plutôt pour éliminer des candidats que pour choisir le candidat préféré. Et donc, ça se passe beaucoup avec des négociations de dernière minute. Donc, il ne faut pas compter vraiment sur les blocs comme, disons, définis au départ. Ils ont tendance à suivre les règles dans la première, deuxième votation, mais pas après.
Et le fait, par exemple, que la Côte d'Ivoire ne soutienne pas le Sénégalais Amadou Hott, qui appartient à un pays de la zone CDAO, mais plutôt le candidat mauritanien, Sidi Ould Tah, est-ce que c'est une surprise?
Nous avons la même situation par rapport à l'Afrique du Sud, qui soutient sa propre candidate sans dénoncer l'approbation que la SADC a fait du candidat zambien. Donc nous avons un peu des éléments qui nous permettent de savoir qu'il n'y aura pas de l'unanimité de vote en bloc.
Le ministre béninois des Finances, Romuald Ouadagni, a d'abord été candidat, puis il a renoncé. Est-ce que vous savez pourquoi?
Non, je ne sais pas pourquoi, mais il n'est pas le seul. Rabat Areski aussi a renoncé. Je crois que ce sont des raisons complexes, personnelles et autres.
Est-ce que Romuald Ouadagni a renoncé tout simplement parce qu'il est pressenti dans son propre pays pour briguer la succession de Patrice Talon à la présidentielle de l'année prochaine au Bénin?
Ça, je ne saurais pas le dire.
Carlos Lopez, ancien secrétaire exécutif de la Commission économique de l'ONU pour l'Afrique. Un entretien avec Christophe Boisbouvier à retrouver en intégralité vers 7h45 et 8h45 heure de Paris sur RFI et sur RFI.fr. Allez, comme chaque jour avant le début de RFI Matin, dans moins de 5 minutes avec Andréane Mellard, on retrouve Maman. Et aujourd'hui, Maman, vous revenez sur cette coupure massive d'électricité qui touche l'Espagne et le Portugal depuis hier.
Oui, c'est beau cette solidarité. C'est beau de se rappeler qu'au XXIe siècle, l'ère du numérique, de l'intelligence artificielle, de l'internet par satellite, réseaux sociaux, GPS et drones, eh ben, une grande partie de l'humanité n'a pas accès à l'électricité toute l'année. Plus d'un milliard et demi de gens qui vivent dans le noir, une fois le soleil couché, sans télé, sans internet, sans frigo, sans micro-ondes, sans climatiseur et surtout sans prise électrique pour recharger leur smartphone. C'est beau cette solidarité parce qu'elle sera récompensée. En effet, il y a un bon côté à être privé d'électricité, hein, parce que le corps humain s'adapte, comme dans un film de super-héros, comme Peter Parker, piqué par une araignée radioactive et qui est devenu Spider-Man. Heureux ces Gondouanais qui ont développé des qualités inhérentes à un environnement sans pollution lumineuse. On ne voit rien dans le noir nocturne privé d'électricité. Eh ben, lui du Gondouanais s'est développé comme celle de Matt Murdock d'Ardeville, au point qu'il peut identifier ses amis ou ses voisins dans l'obscurité, rien que par le son particulier de leurs pas et de leur démarche. Dans le noir complet, il peut savoir si tu as changé de chaussures par le bruit que font tes semelles neuves. Il peut deviner si tu as mangé ou pas parce qu'on ne marche pas de la même manière le ventre vide ou plein. Le Gondouanais dans l'obscurité plongée se déplace dans la nuit noire comme une chauve-souris grâce à un radar qui lui permet d'éviter flaques d'eau, trous et caniveaux à ciel ouvert. À force de vivre sans électricité dans le noir de la nuit, ses yeux sont devenus des lunettes de vision nocturne comme un commando des forces spéciales. Quand tu débarques de ton pays, là où il y a le courant toute l'année, où la nuit tout est éclairé comme en plein soleil, eh ben, t'es tout surpris de voir ces Gondouanais jouer au football dans l'obscurité, courir sans tomber, sans trébucher, là où toi, eh ben, t'avances comme un zombie. Heureux Gondouanais privés d'électricité, ils ne connaissent pas leur bonheur. Ils sont pas obligés de faire la queue des heures et des heures devant les guichets de la société gondouanaise d'électricité pour payer leur facture d'électricité. Heureux Gondouanais dans l'obscurité plongée qui, par rancunier pour un sou, mais préserve l'environnement en ne consommant pas d'électricité du tout. Heureux Gondouanais qui ont le rare privilège de disposer du soleil, une énergie gratuite, cadeau de son excellence président fondateur, une énergie gratuite pour tous pour le moment, une énergie durable pour sortir le Gondwana du sous-développement durable. Donc, quand il y a le blackout chez vous pour un jour ou deux, mais soyez heureux, soyez solidaires. Pensez à ces Gondouanais qui le vivent 24 heures sur 24, 12 mois sur 12. À demain.
À demain, Maman. Et en ce 29 avril, cette coupure massive d'électricité qui touche l'Espagne, le Portugal, on va évidemment y revenir dans RFI Matin. C'est dans moins de 2 minutes. Bonjour, Andréane Mellard.
Bonjour, Alban Le Prince. Et bonjour à toutes et à tous. À vous qui nous écoutez, RFI avec vous. Jusqu'à 10h au programme Chronique Invitée, un reportage comme tous les jours. Et ce matin, vous l'entendiez, l'électricité qui revient au Portugal et en Espagne. On va en parler. Le Canada, mais aussi aussi les États-Unis au programme avant notre journée spéciale. Demain, on parle des 100 premiers jours du deuxième mandat de Donald Trump. Reportage et analyse à suivre ce matin. La suite également ce mardi de nos reportages exceptionnels au Soudan. Un Soudan en guerre, comme vous le savez. Rendez-vous dans le journal de 8h notamment. Et puis le foot aussi au matin d'une journée cruciale, puisque ce soir, ce sera les premières demi-finales de la Ligue des Champions. On y revient dans le journal à suivre dans une petite minute.
Écoutez RFI en direct et en podcast sur l'application RFI Pure Radio.
Conçue comme une plateforme d'écoute, Pure Radio offre un accès à tous les contenus de RFI en français et dans 16 autres langues. Elle vous permet de rester au plus proche de l'actualité et de retrouver facilement les podcasts de vos émissions préférées. Vous pouvez aussi télécharger un podcast pour le réécouter, même hors connexion.
Avec son appli Pure Radio,
RFI est toujours avec vous.
Toujours avec vous.